Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne, Sabine Marin.
Sur cette libre antenne du dimanche soir. Nous avons 2 heures devant nous pour nous parler, échanger, nous confier sur tout ce qui fait la vie, notre vie. Vous le savez, il n'y a aucun sujet tabou sur cette libre antenne et vous pouvez vous sentir libre de venir parler de tout. Au lieu de rester seul avec nos problèmes, quelquefois le simple fait de faire un pas de côté pour prendre soin de soi, de prendre le temps de mettre des mots sur nos émotions, nous aide à nous apaiser. C'est ce que nous explique Diane Baran dans son nouveau livre « J'ai décidé de m'aimer ». Lorsque nous nous traitons avec amour, nous parvenons chaque jour un peu plus à vivre en paix avec nous-mêmes et cette sérénité rejaillit sur notre entourage. Cultiver cet état d'accueil et de présence nous rend plus joyeux, plus créatifs, plus autonomes. Nous, qui ne nous aimions pas, sommes alors en mesure désormais de faire rayonner cette plénitude vers les autres, au point de devenir à notre tour une source de lumière et d'amour. Identifier notre besoin de réconfort, y répondre par un câlin au lieu de dévaliser le frigo par exemple. Oser dire non afin de respecter notre propre rythme, prendre le temps de respirer, de ressentir notre colère au lieu de la déverser sur nos proches, c'est par des actes du quotidien que l'amour de soi grandit. Ce réconfort, vous pouvez aussi venir le chercher sur cette libre antenne dans un dialogue, dans un partage. Appelez-moi dès maintenant au 3921, venez participer aussi à l'émission par SMS en faisant le 7-3921 et en commençant bien par le mot nuit. Toute l'équipe est prête, Amandine, Hassan et Fabrice Fougerouze n'attendent que le top départ. Alors la libre antenne, ça commence maintenant.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1, Sabine Marin.
Et ce soir, on va commencer avec Claudine qui est en conflit avec sa famille mais qui a bien du mal à couper les ponts. Elle nous explique ça dans un instant. On ouvre donc cette libre antenne avec Claudine. Bonsoir Claudine.
Oui, bonsoir. Oui, je suis très émue de passer à l'antenne, alors les mots risquent d'arriver un peu dans le désordre, excusez-moi.
Je vous mettez tout sur la table, je ferai le tri, vous inquiétez pas.
Oui, alors je vous remercie déjà pour votre émission et pour votre professionnalisme.
C'est gentil, merci à vous.
Parce que j'écoute souvent vos émissions et vraiment ça me sert, hein, en plus dans ma vie.
Bah tant mieux, on est là pour ça Sophie et moi, vous accompagner et vous aider tant qu'on peut.
Oui,
alors,
voilà.
Racontez-moi votre histoire Claudine.
Oui, le sujet c'est que, bon... En fait, moi j'ai eu une famille maltraitante, mais très, très, très gravement maltraitante.
C'est-à-dire dans l'enfance déjà ?
Pardon ?
Dans votre enfance ?
Oui, depuis la jeunesse et ça a duré pendant des années. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont des gens qui ne me respectent pas et qui ne me considèrent pas. Et j'ai voulu couper les ponts à un moment donné où il le fallait. Et ma fille me disait... T'as pas de parents. J'ai dit si j'en ai. Elle me dit non, t'en as pas, on les voit jamais. Alors j'avais peur que ma fille me traite de menteuse. Donc pour ça j'ai renoué et j'ai regretté énormément par la suite.
Oui.
Je voulais lui montrer que j'étais pas une menteuse. Alors qu'en fait j'avais coupé les ponts vers 30 ans et c'était l'idéal quoi. Fallait à ce moment-là, ça aurait été très bien, quoi, de résister.
Alors, Claudine, pour qu'on comprenne un peu l'histoire, parce que là, on ne sait pas très bien pourquoi vous voulez couper les ponts et ce qui s'est passé. Comment vous avez grandi ? Comment c'était quand vous étiez petite ?
Oh, c'était horrible. C'était horrible.
Est-ce que vous étiez la seule enfant ?
Oui, j'étais l'aînée, mais l'aînée d'un père différent. J'avais un beau-père et une mère, si vous préférez.
Donc, vous êtes restée avec votre maman quand elle a divorcé ?
Non, elle n'a pas divorcé. Moi, j'ai connu mon beau-père, qui m'a reconnu d'ailleurs, qui m'a donné son nom. Enfin, qui m'a donné son nom, c'est tout ce qu'il a fait.
Mmh.
Et en fait, j'ai toujours vécu avec ma mère et mon beau-père.
D'accord.
Je ne connaissais pas mon père.
D'accord.
Et ça a été dissimulé. Hein. C'est plus tard que je l'ai su, mais je m'en doutais un peu, doute. Hein.
Vous aviez grandi, ils ont essayé de vous faire croire que c'était votre père, en fait.
Ah oui, tout à fait, puisque sur mon acte d'état civil, il est noté comme mon père. C'est plus tard que quand j'ai demandé mon acte de naissance, j'ai vu, non, que... C'est quelqu'un qui a connu ma mère quand j'avais 1 an, quoi. Je portais le nom de ma mère au début.
Et quand vous parlez de maltraitance, qu'est-ce qui s'est passé ?
Oh, des choses très graves, très graves. Très, très graves, les coups, les viols, presque tous les jours, quoi.
De la part
de mon enfance. Hein.
De la part de ce beau-père ?
Le beau-père, il battait, puis le neveu me violait, quoi. Dès l'enfance.
Et votre mère n'a pas, s'en est pas rendu compte ou n'a pas voulu vous protéger ?
Non, elle n'a pas voulu voir, parce qu'en plus de ça, ça, c'était les choses les plus graves. Mmh. Sinon, il y avait le reste, quoi. J'allais pas en vacances, parce que je devais surveiller mon beau-père, qui était alcoolique, qui avait tout le temps des accidents de voiture, et moi, j'étais là pour dire à mon beau-père, pour pleurer, et dire à mon beau-père de donner le volant à ma mère. Des choses comme ça. Puis elle me disait, si t'es pas ça, je le dirai à papa. Alors qu'elle savait qu'il me battait, donc... Ouais. Elle m'a pas aidée, au contraire, elle activait le truc, quoi. Parce que l'autre, des fois, il était crevé de me battre. Je l'ai vu fatigué, quoi, des fois, de me battre. Et ma mère activait le truc, quoi. Donc, elle était très complice. Hein.
Et pendant toute cette enfance et cette adolescence, il n'y a pas un adulte autour de vous qui a pu vous aider, vous protéger ?
Non, non, moi, il y avait la... En plus, on vivait à l'étranger. Et... sœur du beau-père, malheureusement, qui vivait avec nous, qui me mettait à l'écart de la famille pour installer ses deux enfants, dont le garçon qui me violait, qui faisait office de grand frère, en fait. Et puis... excusez-moi. Et puis... non, moi, je rêvais qu'à une chose, c'est de m'enfuir. Hein. Un jour, il y a un Américain touriste qui était venu à la maison et il montrait une belle image aux autres. Hein, les gens comme ça, hein, tout le monde les admire. Hein. Mmh. Et j'avais qu'une envie, c'est de partir avec cet Américain. Quoi. Moi, je voulais partir dans un pays où on tape pas et où on viole pas.
Comment est-ce que vous êtes sortie de cette famille ? Alors, à quel âge et comment ?
Ben, je m'en suis pas sortie. C'est mon beau-père qui, un jour... disons que oui, comment je m'en suis sortie ? Déjà à l'école, je me suis dit, c'est bien quand on est meilleur élève de la classe. D'abord, en plus, à l'école, on battait les enfants aussi. Donc moi, je me mettais sous la table. Parce que j'avais déjà des coups à la maison, j'en voulais pas à l'école. Donc je me mettais sous la table. Toute la journée, pendant 3 ans, j'ai été sous la table. Et c'est un jour où la maîtresse m'a dit, ma mère est prof. Hein. Oh, ben dis donc, pour la fille d'une prof, elle m'a envoyé au tableau, je ne savais pas écrire. Forcément, j'écoutais pas. Je me planquais sous la table et on était nombreux, hein, on était 72 élèves. C'était pas dans un lycée français, c'était pas dans une école primaire française, c'était dans une école locale.
Mais où ça ?
Donc il y avait plein d'élèves, quoi.
C'était où ça ?
On était 72 par classe. Hein, donc,
c'était où, Claudine ?
C'était en Afrique.
Est-ce que j'ai 72 enfants par classe ? Oui, j'avais pas entendu ça ici, en tout cas.
Ah si, si, on était nombreux. Oui. Donc les maîtresses voyaient pas, quoi. Donc je pouvais me planquer tranquille. Et je ne demandais pas mon reste. Du moment où j'arrivais à me cacher sous la table, c'est tout ce qui m'importait. J'avais très mal au dos, mais ce n'est pas grave, je supportais. Parce qu'en plus, on nous tapait, quoi. Elles avaient vécu le racisme en France, donc elles se défoulaient sur les métis et les blancs, quoi. Mmh. Et donc, il y avait ça en plus. Et donc, moi, un jour, elle m'a envoyé au tableau. Et évidemment, je ne savais pas écrire, j'avais 9 ans. Et comme tout le monde se connaît plus ou moins, on disait, dis donc, pour la fille d'une prof, elle ne sait même pas écrire, elle s'est moquée de moi, puis elle m'a foutue à la porte. Et en fait, moi, j'étais délivrée, j'étais très contente de partir. Et la première personne qui a été gentille avec moi, comme adulte, puisque vous me le demandez, c'était la directrice. Oui. Elle m'a vue de loin et elle m'a appelée. Et elle m'a dit, tu vas où ? J'ai dit, ben, la maîtresse m'a dit de partir, alors je m'en vais. Elle me dit, ben non, tu iras nulle part. Et pourquoi elle te renvoie ? Alors je lui dis la vérité, parce que je ne sais pas écrire. Et ces deux filles étaient jumelles et étaient dans la classe de ma mère. Donc elle connaissait ma mère. Mais elle savait rien de l'histoire, quoi. Elle savait l'image que ma mère donnait.
Voilà, elle connaissait votre mère, mais est-ce qu'elle connaissait la vraie face de votre mère ?
Non, pas du tout. Elle la connaissait en tant que prof, quoi.
Ouais, la vitrine, quoi.
Oui, la vitrine. Mm. Et donc, elle a dit, non, tu sais écrire, tu vas écrire. J'ai dit, non, je sais pas, j'ai jamais écrit. Mais j'avais honte, en plus. J'avais 9 ans, quand même, hein, j'étais au CE1. Et elle m'a dit, bon, écoute, tu vas t'installer au fond du tableau. Elle m'a donné un paquet de bonbons, elle m'a dit, tu vas écrire. Et je me disais, ben dis donc, je sais pas comment je vais faire. Puis moi, j'étais très impressionnée, parce que à force d'être battue, violée, j'étais quelqu'un de très impressionnable. Mmh. Et d'être très timide et craintive et bien tout ce qu'on sûr. Veut, quoi. Ouais. Et finalement, je sais pas pourquoi, j'ai écrit jusqu'à Z. Jusqu'à Z. Alors, le peu de cours que j'avais, je sais pas comment ça se passe. D'ailleurs, j'ai trouvé ça magique, parce que j'avais jamais regardé au tableau. Et elle m'a dit, ben tu vois que tu sais écrire, t'as même écrit jusqu'à Z. Bon, ben maintenant, tu retournes en classe. Et elle est partie tirer les oreilles à la maîtresse, quoi.
C'était la première fois qu'une adulte prenait votre défense ?
Voilà, c'était la première fois. Mm. Alors, comme j'ai su écrire, je me suis dit, les meilleurs élèves pouvaient aller au cinéma. On sortait à 16h, on allait au cinéma. Alors, pour moi, c'était ma sortie de secours. Mm. Je me suis dit, je vais tout faire pour être parmi les meilleurs. Et j'ai commencé à bien travailler. Mais ce n'était pas serein parce que j'étais violée et battue à la maison. Je me cachais sous la voiture dans le garage et puis la voiture pouvait démarrer, donc je pouvais mourir. Et je me rappelais de ça, puis d'un seul coup, je sursautais, quoi. Mais enfin, je préférais me cacher parce que j'en pouvais plus, quoi. Mmh. Alors, eux, ils me surveillaient pour me violer et me battre, et moi, je les surveillais pour savoir s'ils étaient là. Donc, j'étais toujours dans le contrôle, quoi. Je ne m'amusais pas du tout comme les autres alors que j'en mourais d'envie.
Oui, vous n'avez pas eu d'enfance, en fait.
Non, non. Et donc, ça a duré. Après, on est revenu en France. Et j'ai continué à être meilleure élève. Et là, j'ai vu que les profs étaient... J'étais la chouchoute, quoi. Mmh. Et moi, ça me plaisait. Mais ce qu'il y avait, c'est que même si j'étais la chouchoute, j'étais pas comme les autres bons élèves. Je m'inquiétais. Des fois, je disais à des filles qui s'inquiétaient pour leur passage à la classe précédente. Moi, je m'inquiétais de la même façon qu'eux. Je me mettais toujours avec des élèves qui étaient nuls, quoi. Mmh. Et elles me disaient, mais tu te fous de nous, t'es la meilleure élève de la classe, t'es parmi les meilleurs, pourquoi tu t'inquiètes, t'as pas à t'inquiéter. Et je comprenais pas, quoi. J'étais sincère, moi. Mmh. Quand je m'inquiétais. Parce que ce que je voyais, moi, quand j'avais des très bonnes notes, pour pas dire oui, les meilleures notes, elles me souriaient. Moi, j'étais contente qu'on me sourie, qu'on me considère, quoi. Mais j'avais pas la notion de...
De votre valeur.
De ma valeur, de réussite, quoi. Puisque je m'inquiétais pour le passage à la classe supérieure, alors qu'il fallait pas du tout, évidemment.
Mais vous vous inquiétiez, j'imagine, surtout pour ce que vous alliez prendre à la maison encore, quoi.
Oui, mais ça, ça faisait partie de la vie. Donc, quand j'étais à l'école, je pensais surtout aux bonnes notes que je vais avoir et au sourire que je vais avoir de la prof qui me complimentait, quoi.
Donc, quand est-ce que vous avez pu quitter cette maison, cette famille ? À quel âge vous êtes partie ?
Ben non, c'est le beau-père qui m'a chassée à 17 ans parce qu'il voyait que je réussissais. Et il m'a dit, t'es plus intelligente que les autres, ça suffit, t'as pas besoin d'avoir le bac. C'était la veille de mon bac, il m'a virée à 9h du soir, à 21h, dehors comme ça. J'ai été voir une dame dont je m'occupais, dont je gardais les enfants. Mm-hmm. Et j'ai été chez elle et je lui expliquais. Elle m'a dit, tu vas rester ici, tu vas réviser ton bac. Moi, j'avais ça en tête, hein, le CAP en candidate libre et le bac. Et donc, j'ai révisé et il s'avérait que c'était une prostituée, je ne savais pas. Il y avait plein d'hommes et elle leur disait de ne pas me toucher. Mais je ne comprenais pas, moi. Hein. J'étais plongée dans mes révisions. Et c'est quelqu'un, la deuxième personne, qui m'a protégée, en fait. Mmh. Mais elle était de mauvaise vie. Mais en même temps, c'était quelqu'un de très généreux, qui aidait beaucoup les autres, et qui était alcoolique. Alors, quand même, moi, elle m'a beaucoup aidée. Après, les épreuves, étaient passées. Donc, j'avais réussi mon bac et mon CAP en candidate libre. Donc, il fallait que je commençais à penser à elle. Et je lui ai dit, tu bois du vin tous les jours, il y a une bouteille en moins. Elle me dit, mais tu me traites d'alcoolique, elle m'a foutu à la porte à nouveau. Donc je me suis retrouvée à la rue, je suis repartie voir une copine, enfin tout était comme ça, quoi. Bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus, donc j'ai vécu à droite et à gauche, quoi. Mm-hmm. Donc même si je réussissais, c'était jamais serein. Je ne me rendais pas compte de ma valeur. Fallait réussir.
Mais comment, c'était compliqué de vous en rendre compte, parce que personne ne vous l'a jamais dit, en fait, que vous avez de la valeur. Personne ne vous a jamais dit « j'ai confiance en toi, je suis fière de toi ».
Ah non, non, moi on me disait le contraire, hein, que j'étais laide, je ne savais même pas que j'étais jolie. C'est à 23 ans qu'un jeune homme m'a dit « mais t'es jolie », j'ai dit « ah bon ?» Il me dit « tu le sais pas ?» J'ai dit « bon, s'il m'engueule comme ça, ça doit être vrai, quoi. » Non, non, moi je ne pensais pas. Ah non, non, pour moi j'étais laide.
Oui, on vous a toujours envoyé une image, que ce soit physique ou morale, épouvantable, quoi. Une mauvaise personne.
Ah oui, oui, puis devant la glace, je ne me regardais pas, moi, dans la glace. Hein. Mmh. Je passais vite devant et puis je me coiffais comme ça en l'air, quoi. Je me maquillais pas et tout ça, quoi. Ce que je voulais, c'était sortir, réussir. Mais comme mon beau-père cassait ma lampe, déchirait mes cahiers et mes livres, je pouvais pas réussir. Donc je travaillais à la bougie. Et malgré ça, j'arrivais à réussir. Et c'est de là qu'il m'a renvoyé donc la veille de mon bac. Et c'est de là que j'ai vécu à droite et à gauche. Et j'avais des copines superbes, par contre. Et socialement, ça marchait bien avec les copines, mais c'est pareil, au bout d'un moment, ça finit, puisqu'après le bac, chacun fait sa vie, quoi. Ouais. Donc je me suis retrouvée sans personne, à tel point qu'un jour, pour pas dormir à la gare, j'ai jamais dormi dehors. J'ai téléphoné à quelqu'un, j'ai dit, écoute, je suis à la rue, et donc elle m'a hébergée, quoi. Ouais. Parce que j'ai vu qu'il y avait des toxicos qui venaient vers moi et tout ça, donc j'avais peur, quoi. comme j'étais tout le temps hébergée, je ne me rendais pas compte. Ça faisait partie du jeu. J'étais en mode survie, donc je vivais comme ça, quoi. Réviser, réussir, réviser, réussir. Et puis, il était prévu aussi que j'aille en Angleterre. J'avais fait tout un dossier, et ensuite en Espagne. Et mes copines m'appelaient. Et après, ma sœur me l'a dit, et moi, j'étais à la rue, et j'avais honte de dire que j'étais à la rue, quoi.
Oui.
Donc, du coup, je me suis retrouvée dans des foyers. Et c'est pareil, en foyer, il n'y a pas de sécurité. Hein. Les gens vous disent, il faut trouver un logement rapidement, quoi. Donc, j'ai tout de suite bossé, alors que j'avais horreur de ce pourquoi j'avais eu le bac, parce que pour moi, je devais continuer.
Vous aviez envie de faire quoi, à ce moment-là, de votre vie ?
Ah, je m'étais inscrite à l'université en Angleterre et ensuite en Espagne, avec deux copines, les meilleures élèves de la classe.
Dans quel but ? Dans quel but ?
Interprète trilingue.
D'accord.
Et c'était bien parti parce que j'étais très bonne.
C'était bonne. Claudine, si vous permettez, on fait une petite pause et je vous récupère juste
d'accord.
après. On continue à parler de votre histoire de vie, d'accord ?
D'accord.
Merci à vous.
Beaucoup.
À tout de suite. Claudine, vous êtes là ?
Oui, je suis là.
Oui, donc on en était à ce moment-là où vous auriez aimé, vous, faire des études supérieures.
Ah oui, parce que le secrétariat, ça ne m'intéressait pas du tout.
Mais vous avez été obligée de travailler quand même à ce moment-là, quoi.
Ah oui, oui, j'étais obligée. Il fallait payer le loyer, j'étais dans un foyer.
Oui.
Et je ne profitais pas, moi, des aides et tout ça, je n'y connaissais rien. Alors qu'il y a des personnes qui étaient au courant, mais je n'avais pas non plus la mentalité à en profiter. Quand je dis profiter, c'est dans le bon sens.
Ouais,
à savoir que les gens comme moi pouvaient bénéficier d'aide.
Et vous n'aviez rien demandé, en fait.
Et même continuer des études.
Oui.
Et on n'était pas informés non plus, hein. Ils n'en faisaient pas la pub, hein.
Oui.
Si on pouvait bosser, ben tant pis, on bossait. Et comme j'avais un bac G1, ben c'était un bonheur dans un malheur, quoi. Parce que même si j'avais horreur de ça, je trouvais du boulot tout de suite.
Hein. Oui, secrétaire, il y en a toujours besoin, ça c'est sûr.
Et c'est à Pesteno-Dactylo, à mon époque, on trouvait, quoi.
Oui, oui.
À mes 20 ans, je trouvais. Ah oui, je quittais, une semaine après, j'avais du boulot.
Mm-hmm.
Et en plus de ça, j'avais des hallucinations sonores. Je ne savais pas, moi, ce que c'était ça. Hein. Quand j'allais dans un boulot, j'entendais « je vais te violer ». Je voulais d'entendre les mots que me disaient, les ordres que me donnait le chef de service.
Oui, c'est un stress post-traumatique. C'est un stress post-traumatique, ça.
Ah oui, mais j'y connaissais rien, donc moi je ne comprenais pas.
Ouais.
Alors j'essayais de regarder sur les lèvres de la personne, mais la voix couvrait. Et je me suis dit, mais non, mais elle ne peut pas dire ça, elle ne sait pas que j'ai été violée. Et moi, les viols, pour moi, c'était dans le passé, je ne savais pas qu'il y avait des conséquences. C'est ça aussi, quand c'est fini, on croit que c'est fini. Qu'on s'en est sorti, quoi.
Oui.
On ne sait pas qu'après, il y a des conséquences et tout ça quand on est jeune.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Donc, moi, je ne savais pas. Bon, évidemment, je faisais le rapport, mais je me suis dit, mais quand même, c'est fini depuis longtemps, cette histoire. Et pourquoi j'entends ça ? Donc, je pensais que je devenais folle, mais enfin, je l'entendais que quand je bossais. Et je l'entendais qu'une fois. Quand la personne me donnait des ordres. Et je me suis dit, mais non, elle ne peut pas dire ça, ce n'est pas possible. Et comme je n'arrivais pas à lire sur ses lèvres parce que la voix était couvrante et que personne ne pouvait me dire d'où ça venait et pourquoi j'entendais ça, et que moi, je ne comprenais pas non plus pourquoi j'entendais ça, j'allais pleurer, quoi.
Oui.
Et je retournais bosser, quoi. Je retrouvais du boulot tout de suite. Sauf une fois, un chef de service m'a couru après, mais je me suis dit, non, je préfère qu'il ait une bonne image de moi, quoi. Je n'ai pas voulu lui expliquer.
Donc, à ce moment-là de votre vie, vous arrivez à prendre un appartement en travaillant ? Ou vous restez au foyer ?
J'étais toujours dans un foyer. J'étais toujours dans un foyer. Et après, j'ai passé un concours administratif. Pareil, qui ne me plaisait pas, mais j'étais à la rue, donc il fallait. Au foyer, on nous demande de nous dépêcher d'avoir un logement, quoi. Donc c'est sous pression, hein. Et donc j'ai pris un logement, j'ai pu prendre un logement, mais rien n'était fait avec sérénité. J'ai pas été à la CAF demander un dossier pour avoir des aides.
J'entends bien que vous avez été dans l'urgence tout le temps, finalement.
Tout le temps en mode de survie, donc je payais cash, quoi. Je payais tout, puis j'avais plein de problèmes d'argent. Puis d'autres, elles me disaient, mais pourtant, moi, j'en ai pas. Tu gagnes comme moi. Et du coup, je me sentais nulle. Je comprenais pas, moi, qu'il y avait des aides, qu'on pouvait aller à la cave. J'étais pas informée. Et donc, voilà, j'ai vécu comme ça. J'ai déménagé beaucoup. J'ai eu aussi beaucoup de... J'ai demandé des mutations plusieurs fois dans différents services. Parce que j'étais jamais sereine, quoi. J'étais en mode survie, donc c'était très dur. Et puis... Mais malgré tout, quand j'avais des personnes il y a eu des toxicos qui sont venus vers moi, il y a eu des personnes comme ça qui sont venues vers moi. C'est pas que je les juge, mais en même temps, j'étais prudente. Et je me disais, non, t'as déjà trop de problèmes, tu peux pas aller, toi, fumer de l'herbe ou aller te balader avec des toxicos. Toi, tu peux pas faire ça. Puis moi, je me disais aussi, je suis trop proche de ces gens-là et je risque de sombrer.
De basculer avec eux, oui.
Oui, de basculer avec eux.
Alors, jusqu'au jour où vous avez eu un enfant ?
Oui, j'ai eu un enfant, mais c'est pareil, je l'ai eu dans des conditions dramatiques aussi. J'ai connu quelqu'un qui était gentil avec moi, et je pensais que les viols, c'était derrière, quoi. C'est pareil. Et en fait, non, j'avais pas de vie sexuelle, on pouvait pas. J'étais bloquée, et quand je lui ai dit, écoute, faut qu'on aille voir un sexologue, il m'a dit, ah non, moi, je vais pas aller voir un médecin pour avoir des rapports avec ma femme. Alors j'ai dit, écoute, je vois pas. Il m'a dit, faut que tu oublies ton passé. J'ai dit, ah oui, mais ça s'oublie pas.
S'il y avait un bouton, ça serait.
Alors, lui, il n'a pas compris. Hein. Il a cru que je faisais des caprices, quoi. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a rien compris. Et donc, il a fallu que je le quitte. J'étais dans un autre foyer. Et là, par contre, je me suis remise à niveau. J'ai eu un emploi dans une banque, dans le privé. J'ai quitté le secrétariat, donc j'étais contente. Le chef de service était content de moi. C'est là où j'ai suivi un stage, en fait. Je voulais travailler aussi dans une banque.
Vous aviez déjà un enfant ?
Oui, j'avais déjà l'enfant. Et j'étais à nouveau dans un foyer avec un enfant, ouais. Puisque la famille, je ne pouvais pas y aller. Mon beau-père ne voulait pas que je vienne, et ma mère non plus. Et j'ai téléphoné à une maison, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de place. Donc, du coup, j'ai été à nouveau dans un autre... J'ai eu un enfant.
Mais
j'ai
gardé ma grossesse. Une petite fille ou un petit garçon ?
Une petite fille.
Et votre maman, elle n'a pas souhaité connaître sa petite fille ?
Ah non, elle s'en fout. Non, elle s'en fout. Ah non, c'est... Non, c'est loin du cœur. Hein. Non. Non, elle ne m'aime pas. Elle ne m'aime pas. Et elle me disait, je t'aime dans les lettres, mais... Et moi, comme une imbécile, j'y croyais, quoi. Oui. Et je pensais qu'on disait ça, je t'aime. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des preuves d'amour.
Mais oui, les mots ne suffisent pas, hein.
Ah oui, mais pour moi, j'avais été éduquée comme ça. Ma mère, quand elle m'écrivait, elle me disait « je t'aime ». Et je trouvais qu'il y avait quelque chose qui clochait, quoi. Mais en plus, j'étais très attachée à ma mère, même si elle était complice et méchante et criminelle. Parce qu'elle aurait pu dire à mon beau-père « écoute, ça suffit ». Parce que des fois, c'est elle qui portait la culotte, quand même. Hein. Ouais. Et elle n'a jamais fait. Et là où j'ai pas compris comment j'ai... Enfin, j'ai pas compris. Même quand j'ai eu ce boulot à la banque, j'ai eu un chef de service qui était très sympa, qui m'a dit « Oh, je suis très contente de votre stage, vous allez avoir un contrat, vous inquiétez pas, c'est une formalité, tout est prévu, vous allez bosser avec moi, on va faire des dessins, on va bien travailler. » Au lieu de profiter de ça, je suis retournée avec le père de ma fille, parce que je me sentais très seule.
Oui.
Même au moment de quelque chose de très positif, où j'aurais pu bien recommencer ma vie, parce que ma fille était gardée à la crèche dans un foyer, même s'il y avait pas il y avait pas de la gentillesse, il y avait un suivi, quoi. On pouvait recommencer sa vie.
Mais est-ce que vous avez été au moins une fois pendant ces périodes-là aidée par un thérapeute ?
J'y suis allée, mais un jour, il y avait un thérapeute qui m'a dit « Vous vous êtes éloignée géographiquement de votre mère, c'est très bien », alors que je ne l'ai pas fait exprès. C'est à force de déménager que, bon, c'est par la force des choses hein, que j'étais loin d'eux. Il faut aussi vous en détacher psychologiquement.
Ben
j'ai
oui.
rien compris. J'ai dit, mais je comprends pas. Ben, il n'a pas pu me l'expliquer. Moi, j'ai jamais compris ce qu'il voulait signifier. J'ai compris quand c'était trop tard, quoi.
Oui, c'est-à-dire que oui, ce qu'il vous signifiait, c'est qu'il faut arrêter d'attendre quoi que ce soit de ces gens-là.
Voilà, mais moi, je n'avais pas compris ça du tout. Je ne savais pas ce que ça signifiait. Et puis, dans ces cas-là, on ne comprend pas. Il y a trop de blocages.
Ouais. C'est-à-dire que oui, à l'intérieur de vous, il y a une petite fille qui est toujours en boule. Et qui probablement est ultra sensible et qui réagit un peu comme un animal sauvage, en fait, qui fonctionne par à-coup, en se protégeant tout le temps.
Ah oui, c'est clair.
Et c'est compliqué d'avoir du recul quand on est comme ça. Forcément, on est en souffrance permanente, donc on n'a pas le recul nécessaire pour comprendre les choses.
Non, puis même le truc de la voix, là, quand j'entendais « je vais te violer », je ne l'ai jamais dit. Je l'ai dit très très tard, tellement j'en avais honte.
Donc pour avancer un peu dans votre histoire, comment vous avez évolué avec votre petite fille alors ?
Eh bien, avec ma petite fille, finalement, bon, je suis retournée avec le père de ma fille.
Oui.
Et j'ai vu qu'il n'avait pas changé. Donc, 15 jours après, je l'ai requitté. Comme quoi, j'avais tout gâché, alors que j'avais un boulot dans une banque et tout. J'aurais eu un bon salaire et tout. Et un autre logement avec ma fille qui était gardée en crèche dans un foyer. Enfin, bref.
Et pourquoi vous avez quitté la banque pour retourner avec lui ? Quel est le rapport ?
Ben, c'est-à-dire que J'ai pas commencé à travailler à la banque. J'avais le contrat, un CDI. Et au lieu d'aller à la banque travailler, j'ai préféré retourner chez le père de ma fille.
Oui, mais vous ne pouviez pas retourner le voir et continuer à travailler ?
Non, je ne pouvais pas, parce qu'il n'était pas dans la même région.
Ah d'accord, c'est une question géographique, c'est ça que je ne comprenais pas.
Il y avait une question géographique, oui.
D'accord, donc vous le requittez.
Et puis il fallait que ma fille soit gardée aussi. Hein.
Vous le requittez et ensuite il se passe quoi alors ?
Alors, 15 jours après, je suis repartie parce qu'il m'a dit « je t'ai acheté une voiture ». J'ai dit « oui, mais je m'en fous. Moi, je ne voulais pas une voiture. On avait prévu des choses que je suive une formation payante et que j'ai un boulot à la fin. T'as rien respecté de tout ça. La petite, il disait qu'il fallait que j'utilise que 3 couches par jour. Alors que quand un bébé naît, les premiers jours, c'est 20 couches. Hein.
J'ai jamais entendu
c'est
ça.
Pas 3 couches. Bah, hein.
Évidemment.
Donc je me sentais très mal et ça a recommencé quand j'ai été le revoir. Donc j'ai regretté tout ce que j'avais foutu en l'air pour retourner le voir. Et en fait, pour être honnête, si je suis retournée le voir, c'est pour ne pas être seule. Je me sentais très seule. Mm. Aucun soutien. Même au foyer, il y avait quelqu'un qui me suivait, moi, parce que j'ai fait une remise à niveau, j'ai fait un stage, j'ai réussi et tout ça. J'étais suivie pour ça, mais il n'y avait pas de... Moi, l'affectif me manquait beaucoup.
Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, vous en êtes où, Claudine ?
Alors justement, je m'en suis sortie. Et après de longues années donc de mode survie. Et ce qu'il y a, c'est que...
Attendez, c'est quoi, je m'en suis sortie concrètement ? Vous vivez comment ? Vous vivez où ?
Je vis dans un logement avec ma fille.
D'accord. Elle a quel âge, votre
fille ? Ma fille adulte, maintenant.
Elle a quel âge ?
Elle a 29 ans,
ouais.
Donc elle fait sa vie, et elle vient me voir. Et
vous avez un travail ?
Oui, j'ai un travail, oui.
Donc vous êtes vraiment bien...
J'ai réussi un autre concours.
Vous êtes bien stabilisée.
Je repars dans l'administration.
Ouais.
Pardon ?
Vous êtes bien stabilisée ?
Oui, je me suis bien stabilisée. Et puis, ce que je veux savoir, ce que j'aimerais, c'est être en contact avec des auditrices qui ont pu couper les ponts avec leur famille. Et qui s'en sont sortis, quoi, quand même. Parce que moi, je vois que je suis en plus quelqu'un de très famille. Et je me suis dit, oui, mais t'en as jamais eu. Et en plus, la tienne était très maltraitante. Mais malgré ça, ça m'a toujours manqué.
Oui, c'est ça que vous disait le thérapeute à l'époque, c'est que vous êtes quand même toujours en attente. Et je suis persuadée que si aujourd'hui, votre mère vous proposait de venir, vous iriez tout de suite.
Ah non.
Non, ça y est.
Non, parce que justement, il n'y a pas longtemps, elle est venue me voir... en me disant, j'étais en Belgique, je t'apporte des chocolats belges. Et je lui ai dit, non, c'est pas de ça dont j'ai besoin d'être respectée. Et je suis partie.
Donc vous commencez à prendre le recul nécessaire.
Ah oui, je prends le recul nécessaire, oui.
Ce beau-père est toujours en vie ?
Oui, malheureusement, oui.
Vous n'avez jamais osé aller lui dire les choses en face ?
Si, mais il me raccroche au nez. Et il m'appelle pour me dire des méchancetés, il me raccroche au nez. Il m'humilie tout le temps.
Oui. Est-ce que vous avez franchement parlé à votre mère de ce qui s'est passé avec lui à l'époque ?
Non, quand j'ai voulu lui en parler, elle s'est barrée.
Oui, donc il n'y a pas grand-chose à en attendre.
Ah non, rien du tout. C'est zéro. Hein. Alors quand elle m'apporte des chocolats, je lui dis non, écoute, non.
Oui, ça paraît un peu dérisoire la boîte de chocolat, c'est sûr.
Ah non, je préfère aller en Belgique. Hein. Mais pour rigoler, j'aurais pu lui dire ça aussi. Hein.
Ouais. Votre problème aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que vous n'arrivez pas, vous, à couper les ponts pour de bon ?
Ah si, j'ai coupé les ponts pour de bon. Mais j'ai connu des gens qui avaient eu de gros problèmes, mais qui s'en sont mal sortis, malheureusement. Moi, je me situe à un niveau intermédiaire. C'est-à-dire que j'ai été trop longtemps en mode survie, et j'ai perdu trop de belles personnes quand j'étais en mode survie à droite et à gauche, que j'ai pas pu garder les très bons amis qu'on se fait au lycée et à la fac, quoi.
Mmh.
Et justement, je voulais savoir s'il y avait des auditeurs et des auditrices qui ont coupé les ponts avec leur famille maltraitante et qui s'en sont sortis pour être en contact avec eux, pour voir si
on
peut être en contact avec des personnes comme ça.
Bah écoutez, moi, d'abord, la première chose, c'est que moi, j'ai l'impression que vous vous en sortez quand même très bien et que vous pouvez être fière de vous. Si personne ne vous le dit, moi, je vous le dis, Claudine, bravo. Après tout ce que vous avez vécu, vous avez construit.
C'est maintenant que je le dis, vous le dis maintenant.
Et c'est très bien.
C'est un peu tard, quoi, c'est un peu tard.
Il n'est jamais trop tard,
J'ai perdu beaucoup d'années, quoi.
Oui, mais vous avez gagné une force incroyable aussi.
Oui, ma fille aussi, oui.
Vous êtes une warrior, une survivante.
Oui, c'est vrai, mais en même temps, les années, nous les femmes, il y a la ménopause, il y a la vieillesse et tout ça. Hein.
Ne commencez pas, on vous en êtes un peu loin quand même, ça, d'après l'âge que je vois là sur la fiche, quand même ça.
Oui, d'accord, mais enfin, on a perdu quand même beaucoup d'années, quoi.
Mais vous savez, l'apprentissage, ça compte aussi. Ces années-là, elles ne sont pas forcément perdues, ce sont des années qui vous ont appris des choses sur vous, sur la vie, qui vous ont renforcé et qui ont fait qu'aujourd'hui, vous êtes celle que vous êtes.
Ah oui.
Et que vous êtes certainement bien plus forte que la plupart des gens qui vous entourent.
Oui, c'est ça, oui, je m'en rends compte aussi.
Et oui. Donc le message est passé, Claudine, si on a dans la soirée des auditrices qui ont vécu des situations similaires et qui souhaitent entrer en contact avec vous, on vous laissera leurs coordonnées, d'accord ?
D'accord, je veux bien, hein ? Je veux bien.
On va faire bien. Ça pourra peut-être créer une petite chaîne autour de vous, de gens qui pourront échanger sur le même thème.
D'accord, merci beaucoup.
Et vraiment,
c'est très gentil.
Claudine, dites-vous chaque matin... Je suis fière de moi parce que vous pouvez être fière de vous.
Merci beaucoup.
Vous êtes forte.
Merci. Merci beaucoup.
Je vous embrasse. Ne raccrochez pas. Je crois qu'il y a déjà un contact pour vous. Amandine va vous le transmettre.
D'accord. Merci beaucoup.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir, madame.
Et je voulais vous dire que vous avez été très nombreux à être touchés par le témoignage de Claudine et que vous avez été nombreux à envoyer des messages avec vos coordonnées. Sachez que nous lui transmettons tout ça en ce moment même. Merci à vous tous. Et c'est maintenant Stéphanie. Donc, qu'est-ce que j'accueille, Amandine? Je ne sais plus, je suis perdue d'un coup. Oui, c'est Stéphanie, c'est ça? Oui, c'est ça.
Bonsoir,
bonsoir Stéphanie, pardonnez-moi, j'ai eu une absence d'un coup. Je ne savais plus. Bonsoir à vous Stéphanie, bienvenue.
Merci. Je ne vous connais pas, je suis un petit peu intimidée par le fait que je ne vous connais pas, alors que je connais beaucoup d'autres psychothérapeutes de votre groupe. Mais bon, je suis.
Alors, d'abord, on va faire connaissance, si vous voulez bien.
Oui, c'est ça.
Je m'appelle Sabine.
Oui.
Et quand vous dites beaucoup d'autres, il n'y en a pas beaucoup. Vous savez, il y a Sophie Peters la semaine.
Oui.
Et c'est tout. Après, il y a quelques remplaçants de temps en temps. Il y a Sabrina qui nous remplace ou l'une ou l'autre. Et ça s'arrête là. Hein. On n'est que trois.
Ah bon, vous n'êtes que trois. Ben alors, c'est sans doute que j'ai eu ce sentiment.
Et vous alors, qui êtes-vous, Stéphanie?
Alors, moi, je suis la grand-mère d'un garçon de 20 ans qui, depuis maintenant 3 ans, a des problèmes de scolarité, c'est-à-dire qu'il ne va plus à l'école. Alors, à chaque fois, on a trouvé un moyen de le réaccrocher à l'école. Sa maman s'en occupe très, très bien.
Pardonnez-moi, quand vous dites à chaque fois, ça veut dire que ça a commencé à quel âge, ces problèmes-là?
Alors, ça a commencé quelque chose comme 8 ou 10. Autour de 8 ans.
Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans la vie de ce petit garçon?
Mais non, non, il ne s'est rien passé du tout. Il a des parents qui sont un peu difficiles, je trouve, mais qui font le maximum pour lui. Ce n'est pas du tout un enfant délaissé, mais bon, il a des parents qui sont pas faciles, qui sont pourtant aimants.
Vous êtes la maman de sa mère ou de son père?
De sa mère.
De sa mère, d'accord.
Oui, de sa mère. Et mon souci est le suivant. Il a été hospitalisé à la maison de Solène. Il en est ressorti avec toujours les mêmes problèmes. Il continue à ne pas aller à l'école. Là, elle était arrivée à l'inscrire dans une école qui reçoit des enfants comme lui, c'est-à-dire des enfants dont on connaît très bien les profils et qu'on essaye d'aider le maximum.
Avec un accompagnement spécifique.
Voilà, c'est ça. Et puis, maintenant, il n'y va plus du tout. Parce qu'il dit que ça ne sert à rien, etc. Il a toujours le même malaise à aller dans des cours. Il a l'impression que rien n'est vraiment fait pour lui. Mais en fait, moi, je ne sais pas grand-chose de ce qu'il ressent, parce que je n'ose pas parler avec lui de ses problèmes parce que je sais qu'il n'aime pas qu'on lui en parle. Bon, je suis sa grand-mère, donc c'est pas à moi en parler, mais ce que je voudrais arriver à savoir, c'est comment est-ce qu'on doit l'accompagner, étant entendu qu'il a un nouveau psychiatre maintenant, et qu'il faut toujours avoir les rendez-vous, que sa maman prend, enfin, essaye de noter les rendez-vous pour être sûr qu'il y va, etc. Mais il doit commencer une psychothérapie, mais on n'a plus de, si vous voulez, il n'est plus assez enfant pour qu'on prenne contact avec les... Enfin, je ne sais pas. Alors, ma question, c'est vraiment, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir contact avec les gens qui s'occupent de lui, c'est-à-dire le psychiatre et la psychothérapeute? Est-ce que ça se fait? Parce que j'ai toujours entendu beaucoup dire qu'il ne fallait pas que quelqu'un
s'en mêle.
Mais si, oui, s'en mêle. Mais comment savoir ce qu'il fait, puisqu'il passe ses journées dans sa chambre à dormir ou à lire ou à écouter de la musique, mais il ne va plus à l'école.
Ça, ça, c'est autre chose, là, savoir ce qu'il fait. Simplement, sur votre première question, non, bien sûr que non, vous ne pouvez pas interférer ni avoir contact avec les thérapeutes qui s'occupent de lui, parce qu'il est majeur et ce qui se passe est totalement confidentiel.
Oui.
La seule chose que peut demander sa maman, c'est simplement d'être alertée si le thérapeute pense qu'il est en danger. S'il a des idées suicidaires ou des choses comme ça, dans ces cas-là, la maman peut se permettre de demander au thérapeute de la prévenir. Mais de toute façon, ce n'est même pas la peine de le faire. Un thérapeute efficace, un thérapeute normal, je dirais, forcément prévient la maman s'il y a un danger quelconque. Mais après, ce qui se passe pendant les séances, ça ne regarde que votre petit-fils et sa thérapeute.
Oui, mais si vous voulez, sa maman n'est pas tellement à la recherche de pourquoi, ni comment, ni... Enfin, la seule chose qu'elle veut, c'est pouvoir accompagner la prise en charge de cet enfant et pourquoi, un coup, il ne prend plus les médicaments. Je crois qu'il ne sait même pas que ces médicaments, les prendre pour arrêter au bout de 8 jours et puis s'arrêter... c'est très mauvais. Donc,
vous avez confiance en votre fille, Stéphanie?
Oui, à ma fille, oui.
Donc, si vous avez confiance en votre fille, il me semble que c'est à elle de gérer ça, et j'ai l'impression qu'elle le fait plutôt bien, qu'elle s'occupe bien de son fils.
Elle s'occupe bien de son fils, mais moi, j'ai trouvé la raison pour laquelle j'ai voulu essayer de comprendre un peu mieux les choses. C'est que j'ai trouvé qu'elle avait l'air un peu d'en avoir assez, que ça fait trop longtemps que ça dure et qu'elle est un peu démoralisée.
Et le papa dans l'histoire, il apporte un soutien, il fait quelque chose?
Alors le papa, il essaye de faire de son mieux, mais ça n'améliore pas la situation. Il est quand même un personnage moteur dans le couple, mais avec difficulté. Ce ne sont pas des gens simples. Ce ne sont pas des gens qui savent régler les problèmes sans que ça se dénature. Moi, c'est là, je leur fais pas demander si je faisais confiance à ma fille. Oui, je lui fais confiance, mais je vous dis, ce qui m'a perturbée, c'est le fait que j'avais vraiment l'impression, la dernière fois que je lui ai demandé des nouvelles, qu'elle en avait assez. Elle dit, je sais plus quoi faire, etc. Et je me disais, mais est-ce qu'il faut pas qu'elle appelle justement le psychiatre pour savoir pourquoi? Enfin, depuis, ça fait des années qu'il ne va pas à l'école, que toutes les solutions qu'on a trouvées, elles durent 1 an ou 2, et puis c'est tout. Donc, comment faire pour essayer de le mettre véritablement dans le bon chemin pour se soigner?
Mais ça, j'ai l'impression que c'est un parcours que votre fille fait avec lui. Ce qui m'ennuie un peu à vous entendre, c'est que visiblement, il a vu beaucoup de thérapeutes et que ça n'a pas avancé. Donc là, voilà, la responsabilité de votre fille, quoique, parce que je vous rappelle que vous parlez de ce garçon comme un enfant, c'est pas un enfant, c'est plus un enfant.
Il a 20, oui, c'est vrai.
Et oui, il a 20 ans. Donc,
oui,
donc à un moment donné, il est aussi adulte et responsable de sa vie, et sa maman peut encore lui conseiller, mais elle ne peut rien l'obliger. Ce qui serait quand même intéressant, c'est de discuter avec lui. Et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Vous disiez tout à l'heure, j'ose pas lui parler. Mais moi, je pense que votre rôle de grand-mère est très important à ce niveau-là. Autant sur la gestion des médicaments, des psys, ça, c'est le rôle de sa mère. Je pense que ce n'est pas le vôtre. Autant, vous avez justement cette chance d'avoir un rôle un peu différent, avec une implication différente. Mais vous êtes là. Il a la chance de vous avoir et peut-être le prendre un jour par la main, l'amener déjeuner quelque part, l'amener, j'en sais rien, faire un truc qu'il aime. Ou...
Je l'ai fait ça, déjà. Mais j'avais tellement peur d'être une personne de plus à me préoccuper du problème. Et,
oui, dites-moi.
Mais après... Enfin, j'ai pas essayé. Je dois dire que j'y suis allée à petits pas et que dès que j'ai compris, il m'a dit mais je me soigne. Mais
oui, parce que vous y êtes allée dans un but de le remettre face à ses problèmes, parce que vous étiez inquiète. Donc,
oui.
Donc vous avez remis de l'inquiétude sur un malaise finalement. Moi, ce que je vous propose, c'est juste d'amener du bien-être, c'est-à-dire de lui dire ok, je suis pas là pour recreuser, te reposer des questions pour ci, pour ça, juste pour qu'on soit bien tous les deux. Qu'on passe un bon moment.
Ouais.
Qu'il est avec vous, si vous voulez, une bulle dans laquelle il peut lâcher prise, où il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas tout ça. Et en créant cette complicité de grand-mère à petit-fils, vous allez peut-être pouvoir instaurer un espace de liberté, un espace de dialogue.
Oui, j'avais pensé à ça. Je m'étais dit, il faudrait sans doute que j'essaie, surtout que je ne double pas ce que fait sa mère. Mais que je crée effectivement une bulle à part où si c'était nécessaire, il viendrait s'accrocher.
Parce que c'est un rôle très important que vous avez quand on a la chance d'avoir encore une grand-mère ou un grand-père comme vous. C'est extrêmement, c'est une grande chance de pouvoir savoir qu'il y a cet espace-là. Mais si dans cet espace-là, il retrouve la même chose qu'avec sa mère, ben il n'a pas envie d'y aller. Et il se ferme, et il se ferme au dialogue.
Oui, oui. Oui, je comprends bien, parce que il est certain que ça m'angoisse énormément, parce que à 20 ans, je me dis qu'il a pas de métier, que moi je vais bientôt partir, que sa mère ne travaille pas et donc quand elle va être elle-même à mon âge.
Attention, Stéphanie, là, vous êtes en train de remettre des problèmes sur des problèmes. On va essayer de séparer un peu les choses. Si vous le permettez, on fait une petite pause dans des infos.
D'accord.
Et je vous récupère de l'autre côté, d'accord ?
D'accord.
Merci à vous, à tout de suite.
Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Encore une heure à passer ensemble sur cette libre antenne. N'hésitez pas à appeler pour prendre la parole tout au long de l'émission. Vous faites le 3921. Vous tomberez soit sur Amandine, soit sur Hassan. C'est celui donc qui décroche le plus vite qui vous rappellera et qui vous guidera jusqu'à moi. Je vous rappelle que comme chaque soir, vous pouvez aussi participer à l'émission par SMS. Vous faites le 73921 en pensant bien à commencer par le mot nuit. Vos SMS pour poser des questions à la personne qui intervient, pour apporter une idée, peut-être une suggestion, une solution si vous en avez. Car je vous rappelle que la Libre Antenne, c'est aussi une grande famille. C'est aussi par SMS que vous pouvez demander à entrer en contact avec quelqu'un que vous entendez qui vous touche. Et vous êtes très nombreux à le faire ce soir depuis le témoignage de Claudine tout à l'heure et je vous en remercie. Nous continuons à établir le contact, le lien entre vous. Par téléphone 3921, par SMS 739 21, en commençant par le mot nuit. A tout de suite.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Stéphanie, vous êtes toujours là?
Oui.
Alors, avant de reparler de vous et du rôle que vous pourriez jouer, votre petit-fils, il fait quoi comme étude là en ce moment? Il est supposé faire quoi comme étude en ce moment?
Alors, il a été jusqu'en seconde, et puis là, il est entré dans une très très bonne école de paysagiste,
ouais.
Parce qu'on s'est dit qu'il fait, enfin, sa maman pensait que ce serait bien qu'il essaye de prendre contact directement avec ce qu'il pourrait faire plus tard. Mais en fait, je pense que c'est pas ce qu'il lui faut.
Alors, c'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce qu'il aime, ce garçon? Qu'est-ce qui lui plaît dans la vie?
Ben, je sais pas. Je sais pas. Pourtant, je suis proche de lui. Hein. C'est pas que par manque de contact avec lui, mais qu'il puisse rester comme ça des journées entières dans sa chambre à écouter de la musique ou à écouter autre chose, je suis très surprise. Et d'autre part, sa maman ne me donne pas beaucoup d'informations et elle dit toujours « oui, je pense que », mais en fait, elle a du mal à avoir des conversations avec lui.
Oui. Alors ça, en dehors même du fait qu'il a un souci, c'est quand même un grand classique de cette période. Vous savez, entre 15 et 20 ans, les jeunes sont beaucoup isolés, ils sont beaucoup en train d'écouter de la musique, ils ont le casque sur les oreilles. Et la communication n'est pas facile, donc vous n'êtes pas la seule à vivre ça avec votre fille.
Oui.
Mais au-delà de ça, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, justement, ce qui serait vraiment bien, c'est de créer des moments de complicité avec votre petit-fils et peut-être justement de l'amener à parler de ce qu'il aime vraiment dans la vie. Peut-être que si vous arriviez, vous d'abord et avec votre fille ensuite, à l'orienter vers quelque chose qu'il aime, ça pourrait être un déclic. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a envoyé un message pendant les infos et qui disait « Je me reconnais beaucoup dans ce portrait ». J'ai décroché après le bac car je ne me trouvais pas à l'aise dans le milieu scolaire où j'étais. Et peut-être j'avais une passion qui m'intéressait plus que ça. Et peut-être que ce garçon, votre petit-fils, aurait quelque part en lui une envie. Quelque chose qui pourrait faire qu'il se bouge, quoi, qu'il avance.
Oui, il faudrait qu'effectivement, je l'invite à déjeuner de temps en temps. Mais je sens qu'il est mal à l'aise, si vous voulez.
Mais oui, parce que jusqu'à aujourd'hui, quand vous l'avez fait, si j'ai bien compris, même si c'était avec la meilleure volonté du monde, vous l'avez fait pour pratiquement déposer vos problèmes sur lui, vos doutes, vos questionnements, vos inquiétudes.
Oui, vous avez raison, oui.
Alors c'est là aussi, si vous permettez, vous donner peut-être un autre conseil, c'est d'aller voir un psychothérapeute, non pas pour faire une thérapie, mais d'aller voir un psy, ne serait-ce qu'une fois, pour poser des questions et demander conseil. Sur ce qui se passe, sur le traitement, puisque vous aviez des inquiétudes sur les médicaments, par exemple, vous voyez?
Oui.
Peut-être d'aller voir une fois, vous, un professionnel, plutôt même un psychiatre, parce qu'il est médecin, de mettre les choses à plat avec lui et de faire un point sur le côté médical de la situation.
Oui.
Pour ne pas non plus vous angoisser.
Mais il faut que j'aille voir les personnes qui le suivent, lui.
Pas forcément, non, parce que là, je pense que c'est aussi une intrusion dans son monde à lui et que c'est pas forcément une chose qu'il pourrait prendre bien. Non, c'est trouver un bon médecin ou un bon psychiatre près de vous, près de chez vous, pour aller une fois faire un point pour avoir peut-être des conseils plus médicaux.
Ah, d'accord.
Pour savoir exactement de quoi il s'agit si votre fille n'arrive pas à vous répondre. Et pour ne pas déposer toute cette angoisse-là sur lui, vous voyez?
Sur lui, oui. Hein? Oui, oui.
Pour que quand vous le voyez, que ces angoisses-là, vous arriviez à les gérer, vous, de votre côté, d'avoir des réponses peut-être plus médicales à certaines de vos questions, et pour pouvoir créer avec lui quelque chose de plus souple, de plus posé, de plus positif pour lui, qui soit vraiment une ambiance de complicité. Et comme vous le disiez si bien tout à l'heure, si vous arrivez à créer ça, il sera le premier à venir vous parler après.
Ben j'espère. C'est par crainte de risquer de le perdre que j'ai fini par faire beaucoup de marche arrière parce que j'ai pas du tout les compétences qu'il faut pour et comme vous dites très justement, je veux pas faire plus de dégâts que ce qu'il y a.
Oui, je comprends parce que vous êtes pleine de bonne volonté, pleine d'amour pour ce petit-fils et c'est une grande chance. Donc je pense que d'un côté, il faut aller gérer les choses en vous structurant avec un psy, en posant des bonnes questions, pour peut-être qu'il vous rassure en fonction de ce que vous allez lui donner plus en détail bien sûr que ce soir, mais lui expliquer vraiment qui est votre petit-fils, par quoi il est passé, quels sont, qu'est-ce qu'il prend comme médicament, enfin ces choses-là. Pour pouvoir déjà déposer... Pardon, je suis en train de lire en même temps les messages qui arrivent. Ah oui, il y a quelqu'un qui suggère, qui dit qu'elle a vécu la même chose, qui suggère une thérapie familiale.
Ah oui, alors ça, c'est une chose à laquelle ma fille a pensé. Mmh. Et ça a été quelque chose de très mal perçu par ses enfants et son mari. Mmh. Et personne ne veut y aller dans cette thérapie familiale. Mmh. Alors, du coup, elle n'a pas eu lieu.
Non, ce qui serait vraiment intéressant, effectivement, j'ai l'impression que c'est pas ça qui va lui convenir à ce garçon, c'est d'arriver petit à petit à ce qu'il ait vraiment suffisamment confiance pour se lâcher, pour vous parler. Parce que tout à l'heure, je vous demandais, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie? Vous m'avez dit non. Mais peut-être qu'il s'est passé quelque chose et que vous ne le savez pas.
Ah oui, c'est quelque chose auquel je pense, effectivement. Mais je vais vous me donner du courage, je vais... réessayer de reprendre contact avec lui, de l'inviter à déjeuner plus régulièrement, même si certains déjeuners sont sans solution, enfin sans.
C'est pas une solution. Écho. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment c'est pas en écho. Attendre. Il faut pas en attendre une solution, mais simplement une construction d'une base solide.
Oui, c'est ça.
D'un espace c'est vraiment ça. De liberté dans lequel il va se sentir bien avec vous.
Oui, c'est ça.
Parce que j'imagine que de tous les côtés, on doit lui tomber dessus. Les médecins, son père, sa mère.
Ah oui, oui, non, mais c'est la raison pour laquelle je vous appelle. C'est parce que plus personne ne sait quoi faire. Mmh. Et que je, comme vous le disiez très justement, entre 10 et 20 ans, les enfants, ils ne savent pas très bien où ils en sont. Et que... C'est sûr que le mal-être qu'il a actuellement, il n'est pas simple. Mais je pense que maintenant qu'il voit un psychiatre, jusque-là, je crois qu'il a vu que... Non, il a vu un psychiatre à la maison de Solène, mmh. où il était... Et d'ailleurs, j'avais été parler avec lui et il m'avait dit qu'il était très content, qu'on lui faisait faire des tas de choses, mais il devait avoir 14 ans à peu près à ce moment-là.
Oui.
Alors, c'est sûr qu'on arrivait très bien. Bon, là, c'est l'idéal parce qu'il avait beaucoup de gens qui s'occupaient de lui. Et puis, on lui a donné l'indication de... d'une pension où il y avait des enfants qui suivaient la scolarité normale, mais avec des aidants qui étaient des gens qui étaient du métier.
Oui, avec un suivi différent. Est-ce qu'il est en pension, là, vous me dites, ou il est externe?
Ah non, maintenant, il n'est plus. Non, il n'est plus. Il a été en pension jusqu'à 16 ans. Et maintenant, il n'est plus. Parce que jusqu'à 16 ans, sa mère espérait pouvoir le refaire rentrer au moins dans un endroit où il puisse avoir son bac. Parce que sans le bac, on n'a rien maintenant. Mmh. Et comme il n'est pas très doué, mais enfin, il est normal. Il a une structure intellectuelle qui est bonne, et c'est pas l'enfant qui est nul, qui est complètement enfermé, etc. Les personnes qui le connaissent ne comprennent pas du tout pourquoi nous disons qu'il est pas très bien, parce qu'il se fait inviter, on a eu une réunion familiale qui était la suite d'une autre réunion qui avait eu lieu aux États-Unis, auquel il était invité et où il est allé avec ses parents d'ailleurs. Et bien quand ces personnes chez qui nous étions sont venues à Paris, et ont invité tout le monde à refaire une réception familiale, eh bien, il n'a pas voulu y aller à la dernière minute. Il a dit à sa mère qu'il irait, puis à la dernière minute, il n'y est pas allé. j'ai pas.
Mais vous savez, la phobie scolaire est pas loin de la phobie sociale, hein, c'est un peu la même chose.
Oui.
Mais peut-être aussi quand, si vous arrivez à créer cet espace avec lui, profitez-en pour le valoriser, ce garçon.
Non, bah écoutez, sa mère le fait très. Ça, alors ça, c'est une chose qu'elle fait très bien.
Ouais.
Elle le valorise, elle s'en occupe beaucoup, sans s'en occuper trop, parce que il a mis des barrières, hein, et elle n'ose pas les franchir dans la mesure où il faut pas non plus qu'elle se sépare de lui, parce que sinon il dira plus rien.
Oui, bien sûr. Une fois de plus, il a 20 ans, c'est plus un enfant.
Eh ben oui.
Écoutez-moi, ce que j'entends quand même, c'est qu'il est, il est bien entouré. Il a une maman qui s'occupe au mieux de lui, il est suivi par un psy, et il a une grand-mère qui va pouvoir instaurer quelque chose de tendre et d'un espace de liberté, de complicité. Et ça, c'est important. Ça, c'est votre place à vous, à prendre, cette place-là.
Ben, écoutez, je vais essayer. Et puis, si je peux obtenir un écho à ce que je vais lui apporter, j'appellerai pour vous dire comment ça se passe.
Avec plaisir. Et avant qu'on se quitte, Stéphanie, j'ai un message de Didier qui dit « Vous vous faites beaucoup trop de mourons pour votre petit-fils. En 94, j'avais 20 ans, j'étais absolument comme lui. » Moi, je pense qu'il va bien et que c'est qu'il sait très bien. Il ne sait pas très bien ce qu'il fait pour l'instant. Mais Didier a l'air de dire que voilà, il s'en est sorti en étant passé par le même chemin.
Bon, bah écoutez, ça m'encourage alors.
Je vous embrasse.
Ça m'encourage.
Je vous embrasse, Stéphanie.
Vous êtes un amour et je voulais vous dire à quel point votre numéro de téléphone est précieux et combien vous-même ainsi que vos autres confrères. Être précieux pour les gens de la nuit.
Ça me touche beaucoup. Merci Stéphanie, je vous embrasse très fort.
Moi aussi, au revoir.
Au revoir. Et nous allons maintenant faire la connaissance de Marie. Bonsoir Marie.
Bonsoir Sabine, merci de prendre mon appel.
Avec plaisir. Comment allez-vous ?
Pas trop bien.
Ah, racontez-moi. Qu'est-ce qui vous amène ce soir ?
C'est parce que tout le monde a Internet et moi, j'ai pas Internet et je panique, j'ai peur de pas savoir.
Alors attendez, on va recadrer un peu. Tout le monde n'a pas Internet, déjà, je vous rassure.
Oui, mais autour de moi, tout le monde me dit il faudra que tu passes par là. C'est obligé, tu ne pourras pas vivre sans Internet.
Alors là aussi, on va recadrer. Quel âge avez-vous, Marie ?
72 ans.
Est-ce que vous, ça vous pose un problème de ne pas avoir Internet ?
Non.
Bon, bah alors ?
C'est parce que... Oui, mais... C'est parce que... On dit que ça va être que c'est obligé. Tout le monde va avoir Internet et puis... On est obligé de passer par Internet maintenant pour tout. Quand je vais faire des commissions, si je vais acheter des fois des trucs, on me dit « Vous avez une adresse email ?» Je dis « Non, je n'ai pas Internet.
Oui, » enfin, vous savez à quoi ça sert, adresse email dans ces cas-là ? C'est juste pour vous envoyer la pub derrière.
Ah
donc,
bon ?
Ça n'a aucun espèce d'intérêt. Non, mais je suis d'accord que c'est très pratique, mais ce qui m'ennuie un peu dans ce que vous me dites là, dès le départ, c'est ce sont les autres qui vous font croire que ou qui vous obligent à... Mais vous êtes libre ? Si vous, ça vous convient comme ça, pourquoi est-ce que vous seriez obligé ?
Parce que on me dit que c'est comme si on me disait tu peux pas vivre sans téléphone. Tout le monde a le téléphone maintenant. Il y a pas beaucoup de monde qui n'ont pas le téléphone. Tout le monde a le téléphone. Alors on me dit tu seras obligé d'avoir Internet. Tout le monde aura Internet.
Alors,
mais... tout le monde ne l'a pas maintenant, mais il va falloir que t'y passes. Alors ça m'embête, je panique, je suis pas bien.
Alors attendez, déjà petit 1, j'aime pas l'expression « il va falloir que t'y passes » parce que rien que ça, c'est extrêmement négatif. Il va rien falloir du tout. Si vous n'avez pas envie, personne ne vous oblige. Et croyez-moi, on peut très bien vivre sans Internet et sans ordinateur. Maintenant, si vous deviez avoir un ordinateur tout simple et vous connecter à Internet... Vous pourriez vous faire aider. Il y a énormément d'associations, de gens qui vous aident, qui viennent aider les personnes comme vous qui ne sont pas à l'aise ou qui ont peur de ça, pour vous apprendre.
Oui, ça je sais. ça je sais, mais il faut que je vous dise que où j'habite, il y a une médiathèque et il y a des cours gratuits.
Oui, dans toutes les villes, il y a ça, c'est très très bien.
J'y suis allée, la dame, elle m'a donné rendez-vous, j'ai 3 rendez-vous, un pour faire connaissance de l'ordinateur, le deuxième rendez-vous, c'est pour faire avec la souris, et le troisième, c'est pour les adresses e-mail.
Ouais.
Mais moi, rien que de voir quand j'y vais, je vois qu'il y a 5 ordinateurs aussi, je sais plus, que je les vois tous alignés là, ça m'oppresse, je suis pas bien, je me sens pas bien quand je suis devant ce truc-là.
Bon. Marie, est-ce qu'en dehors de ce problème d'ordinateur, vous allez bien dans la vie?
Pas trop.
Oui, c'est ça, parce que j'ai l'impression que ça n'est qu'un déclencheur, l'ordinateur, que c'est pas la vraie raison, que le problème, il est ailleurs. Que vous êtes angoissée pour une autre raison et que du coup, ça amplifie cette angoisse, mais c'est pas la raison de l'angoisse, l'ordinateur.
Oui, mais je crois que je saurai jamais quand même.
Il faudrait peut-être que vous ayez une motivation. Est-ce que vous avez des gens que vous aimez qui sont loin, par exemple, de la famille, des petits-enfants?
J'ai ma fille qui habite dans le sud.
Parce que vous savez que l'un des gros avantages d'avoir un ordinateur, et là c'est très facile d'utilisation, c'est qu'on peut se voir et se parler à distance. Vous pouvez vous brancher et vous la voir en temps réel, comme si elle était filmée devant vous. Et
oui, je vois ça à la télé, oui.
Mais ça, c'est extraordinaire quand on aime des gens qui sont loin. On se parle comme si on était dans la même pièce, on se voit et on se parle.
Oui, ça je sais, mais j'ai peur de ne pas savoir m'en servir, j'ai peur de me tromper. Alors comme je suis toute seule, je vais paniquer, je ne vais pas savoir comment faire pour...
Ah bah si, forcément si vous n'apprenez pas, mais une fois que vous aurez appris, vous saurez. Forcément aujourd'hui vous dites j'ai peur de ne pas savoir, mais vous ne pouvez pas savoir, vous n'avez pas appris, c'est comme tout. Un jour quand vous étiez bébé, vous ne saviez pas marcher et vous avez eu sans doute très peur de vous lever et de retomber.
Oui, c'est vrai.
Et on vous a appris à marcher, vous êtes tombé sur les fesses plein de fois, puis un jour vous êtes redressé, vous avez appris à marcher. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, vous ne vous dites plus que zut, comment est-ce qu'on fait pour marcher? Vous l'avez intégré.
Oui, mais je ne sais pas, ça me paraît compliqué ce truc-là.
Parce que vous n'avez pas encore mis les mains dedans, mais rassurez-vous d'abord, c'est de plus en plus simple et intuitif. Il y a beaucoup de manières maintenant de se servir d'un ordinateur de manière très facile. Et une fois de plus, vous avez des gens prêts à vous apprendre ça.
Oui.
Et quand vous aurez, à mon avis, quand vous aurez trouvé un intérêt, probablement de communiquer à distance avec des gens que vous aimez, par exemple de recevoir des messages, ça va vous intéresser beaucoup plus.
Oui.
Et puis de toute façon, au pire, si ça ne vous plaît pas, qu'est-ce que ça vous coûte de faire ces 3 séances?
Non, je vais les faire, mais non, ce qui m'embête, c'est que... On dirait que, à entendre les gens parler, on dirait que c'est comme une obligation d'avoir Internet. Si on n'a pas Internet, je sais pas comment vous expliquer.
C'est là que je vous disais tout à l'heure que c'était même à vous de vous imposer aussi et de dire si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Maintenant, pendant que nous parlons, Marie, il y a Véronique qui vient d'envoyer un message. Est-ce que vous habitez en région parisienne?
Non.
Non. Ah.
J'habite dans l'Est.
Dans quel coin? Parce qu'il y a plusieurs auditeurs qui appellent et qui vous proposent de vous aider.
J'habite...
Le nom d'une grande ville, pas très loin, simplement.
J'habite pas loin de Nancy.
D'accord. On ne sait jamais si on a des auditeurs qui sont près de Nancy. Mais là, déjà, vous allez avoir une sacrée aide avec cette médiathèque et ces cours-là.
Oui.
Après, c'est vous qui choisissez. Soit vous vous dites... Vous savez, quelquefois, il y a des gens qui ont des révélations. Vous n'êtes pas très âgé, hein. Ça va, vous avez encore un âge où on peut apprendre des choses. Et il y a des gens comme vous, moi j'en ai rencontré, qui étaient totalement réfractaires parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils ne savaient pas, et qui petit à petit se sont découverts un plaisir à se servir de ça, parce que ça leur apportait quelque chose.
Oui, je veux bien le croire, oui.
Et donc, soit vous allez découvrir que finalement, c'est sympa et que ça vous apporte des choses et du coup, ça va être un plaisir. Soit vous allez dire non, définitivement, c'est pas mon truc, et vous avez le droit de dire non. On s'en fiche de ce que les autres disent autour de vous, il faut pas, c'est pas eux que ça regarde, c'est vous, c'est votre liberté.
Oui, mais moi, dans ma tête, je croyais qu'on ne peut pas vivre sans Internet maintenant, à l'époque où on est maintenant.
Bah, pourquoi ? Qu'est-ce que ça vous apporterait de plus ? Si vraiment vous n'avez pas envie d'avoir d'ordinateur, qu'est-ce que ça changerait ?
Moi, je demande qu'une chose, c'est qu'on m'aide, c'est que par exemple, pour les impôts, c'est compliqué, ben je vais aux impôts, puis on m'aide.
Ben oui, bien sûr. Mais ça fonctionne encore, heureusement. Dieu merci, ça fonctionne encore comme ça. Personne ne va vous obliger à vous servir d'Internet si vous ne l'avez pas. Mais quand même, allez faire ces trois cours-là, je vous assure que quelquefois, il y a des gens qui ont des révélations, qui se disent, finalement, c'était beaucoup plus facile et plus sympa que je le croyais.
Mon mari, il me dit, tu verras après, t'en rigoleras, parce que mon mari, il est en EHPAD depuis 4 ans et je suis toute seule. Mm-hmm. Donc, il sera à côté de moi, il m'aiderait, je paniquerai pas, je serai pas toute seule si je me trompe, il pourrait me montrer, mais...
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, si vous prenez ces cours-là, vous allez apprendre et il y aura quelqu'un qui pourra aussi vous aider même par téléphone, parce que je pense que vous pourrez garder un contact avec cette personne-là. Et puis, vous pourrez faire aussi appel à vos voisins. Demandez à des commerçants s'il n'y a pas des petits jeunes dans le quartier qui peuvent vous donner un coup de main si à un moment donné vous êtes perdu. Il y a toujours un petit voisin qui sera prêt à vous donner un petit coup de main. Hein. Vous montrer comment ça marche. N'hésitez pas à demander de l'aide.
Oui.
Mais au-delà de ça, Marie, ce que j'entends chez vous, c'est quand même un stress et une angoisse qui vont bien au-delà de l'ordinateur.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe dans votre vie ?
J'ai mon mari qui en est pas depuis 4 ans. Mmh. Je m'en suis occupée jusqu'au bout, puis je suis tombée malade. Et j'ai mon fils handicapé mental de naissance, qui est schizophrène, que j'ai eu pendant 30 ans à la maison. Ça fait 21 ans qu'il est en psychiatrie.
Oui. Il est interné en ce moment ?
Oui. Ouais. Ça fait 21 ans.
Oui, ça fait beaucoup. Vous en avez eu beaucoup sur les épaules.
Hein. J'ai ma fille qui est malade, mais ça va quand même. Elle est courageuse. Oui. Je me sens seule.
Ben oui, j'entends ça. Vous avez passé votre vie à vous occuper des autres ?
Oui.
À soutenir, j'imagine, à encourager, à aider ?
Oui.
Et là, vous êtes toute seule ?
Oui. Alors, j'ai peur de tout. C'est idiot. C'est complètement idiot d'avoir peur de...
Non, c'est pas idiot, Marie. Ne vous jugez pas pour ça. Bien sûr que non, c'est pas idiot. C'est la vie que vous avez vécue qui vous a fait des bleus et qui font que maintenant, vous avez peur, bien sûr. C'est normal.
Oui.
Mais c'est pour ça que, pour le coup, l'ordinateur peut vous ouvrir aussi un monde de contacts, de rencontres.
Oui, il faudrait que j'y aille en prenant ça comme un jeu.
Exactement.
Pas y aller stressée, en ayant peur, en me disant « j'arriverai pas, je comprends rien » et tout ça.
Et bien, si vous y arrivez pas et vous comprenez rien, c'est pas grave, vous laissez tomber. Vous voyez, il y a quelqu'un qui nous envoie un message en disant « je n'ai pas d'ordinateur, ça ne m'intéresse pas, j'ai 60 ans, j'ai d'autres passions dans ma vie ». Je lis et j'aime être différente des autres. Il n'y a aucune obligation.
Mais j'aime tout ça. J'aime lire, j'aime marcher, j'aime beaucoup de choses. Mais je me dis, je croyais que c'était presque une obligation d'avoir Internet. Qu'on ne pouvait pas vivre sans Internet. Tout le monde me dit tellement, il faudra que tu aies Internet, il faudra que tu y passes, il faudra... Tout ça, alors ça me...
J'aime bien parce que dans la formulation « y passer », il y a comme une notion... On dit de quelqu'un qui va y passer quand il va mourir, donc c'est très vieux, c'est quand même... Il faudrait qu'il passe, je trouve ça un peu...
Vous me faites rire.
Non mais c'est vrai, je trouve ça un peu fort de parler d'ordinateur comme ça. Vous qui avez peur, c'est la phrase à pas vous dire, ça, tu vas y passer. Mais sinon, est-ce qu'il y a autour de vous peut-être des associations, des activités qui pourraient vous faire du bien aussi, vous ouvrir un peu vers d'autres?
J'avais pensé aller faire du yoga.
Ah ben ça c'est formidable, bien sûr, pour être plus zen, pour rencontrer d'autres gens aussi.
Oui, parce que des fois, je ne suis pas bien, j'ai du mal à respirer.
Ah ben ça c'est l'idéal, le yoga, pour apprendre à la respiration profonde et le calme. Il peut y avoir aussi des cours de dessin, de peinture, du théâtre, des choses qui vous permettent un peu de penser à vous. Parce que je crois que vous avez passé une vie entière sans jamais penser à vous.
Ah oui.
Eh oui. Donnez-vous ce droit-là aussi.
Oui.
Donnez-vous le droit de vous occuper de vous faire du bien, de trouver une activité. Le yoga me paraît une excellente idée.
Oui, je voudrais faire ça.
Pour vous apaiser, pour retrouver des contacts avec les gens, parce que les cours de yoga sont souvent sympas et on fait des connaissances agréables. Et puis l'ordinateur, on s'en fiche, vous le faites pas, et puis voilà. Il y a même quelqu'un, vous voyez, il y a une dame, Laxou, ça vous dit quelque chose? C'est un nom de ville, Laxou?
Oui, c'est à côté de Nancy.
D'accord, Nancy et Laxou, c'est très simple d'utiliser Internet, dit-elle. Je m'appelle Clotilde et laisse un numéro de téléphone. Il y a peut-être même des gens qui vous pourraient appeler si vous avez un souci, mais une fois de plus, on s'en fiche de l'ordinateur. Allez faire ces trois cours-là et vous verrez bien. Ne donnez pas plus d'importance à ce truc-là que ça n'en a. Si ça vous convient, eh ben vous le prenez et vous dites très bien, ça me plaît. Si ça ne vous convient pas, vous ne le faites pas. Ah, message de Karine sympathique qui dit « Ma mère de 85 ans a pris trois cours pour se servir d'un ordinateur. Depuis, elle écrit ses mémoires. Elle communique avec ses proches et, ça l'aide, et elle lui dit « Vous allez voir Marie, ça vous amusera beaucoup et ça vous aidera.
Oh. » Ah oui, ben je vous dis, j'ai pris les trois rendez-vous là, je vais y aller.
Eh ben, très bien.
Oui.
Et puis aller faire du yoga aussi, tout ça, ça va vous aider à vous apaiser.
Oui.
D'accord.
Merci. Merci Sabine, je vous souhaite une bonne soirée.
Merci
d'avoir pris mon appel et de m'avoir...
Marie, vous me promettez quelque chose?
Oui, si vous voulez.
Quand vous aurez pris ces trois cours, rappelez-moi pour me raconter. Si ça se trouve, vous allez me raconter plein de trucs marrants avec l'ordinateur.
Oui.
Vous allez devenir ce qu'on appelle une geek, vous allez voir, une spécialiste. D'accord?
Oui, merci.
Je vous embrasse,
merci,
Marie.
Merci à tout le monde.
À bientôt. Au revoir.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Et c'est Monique que j'accueille maintenant. Bonsoir à vous, Monique. Allô.
Oh, je vous entends très mal.
Allô.
Oui, je vous entends très mal.
Ben, je vous entends très mal aussi, Monique.
Comment?
Je vous entends très mal aussi.
Attendez, je vais mettre l'amplificateur parce que sinon, je n'entends pas.
Oula, ça va être pire. Je crains que ce soit pire.
Là, je vous entends très bien.
Oui, mais pour nous, Fabrice, comment c'est pour nous? Allez-y, parlez-moi.
Je vous entends très bien, moi, Sabine.
Bon, on va essayer, Monique. Si ça va pas, je vous promets pas qu'on restera ensemble, mais on va essayer. Je vous écoute, racontez-moi votre histoire, alors.
Oui, j'avais un petit copain, quand j'étais jeune, et ça fait 56 ans que je l'ai perdu de vue.
Quel âge avez-vous,
et
Monique?
Là, j'ai 72 ans.
D'accord.
Et alors, j'étais très amie avec lui. Son papa était chef de gare dans mon petit village du Soleil à côté de Perpignan.
Mm-hmm.
Et son papa a été déplacé. Il est parti dans l'Hérault à Pézenas. Et depuis, je n'en ai plus de nouvelles. Et presque tous les soirs, je rêve de lui. Et je voudrais savoir pourquoi je rêve de lui. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ben, ça veut dire que vous l'aimez encore, vous n'avez pas fait le deuil de cette histoire-là. Quel âge aviez-vous quand vous l'avez rencontré?
Oh, j'avais 10 ans.
Et jusqu'à quel âge vous êtes resté proche de lui?
Jusqu'à 17 ans.
Et oui, vous vous rendez compte, ce sont des années très très importantes dans la vie d'un homme ou d'une femme. Les années où on sort de l'enfance, où on construit sa vie d'adulte, on est puissance 1000 pendant ces années-là. Et donc, vous avez vécu avec lui des émotions très fortes, j'imagine.
Et oui.
Et ça vous a beaucoup...
Quand je sortais de l'école, j'allais l'attendre. On allait au bal, danser. Il m'offrait le petit bouquet de fleurs et tout. C'était vraiment mon petit amour, quoi, d'enfance.
Et c'est un joli souvenir, mais c'est juste un souvenir. Est-ce que vous avez quand même construit votre vie de femme et de mère plus tard?
Ah oui, je me suis mariée et j'ai eu trois enfants. Et pendant ce temps, je n'y ai plus pensé à lui. Parce que j'avais mon mari, j'avais mes enfants.
Mmh.
Et maintenant, ça fait 23 ans que je suis veuve. Et c'est depuis ce temps que je pense toujours à ce petit copain.
Depuis 23 ans, vous pensez à lui. Est-ce que vous avez fait des tentatives pour le retrouver?
Oui. On m'a fait, sur Internet, on m'a fait des... Pas moi, parce que je ne l'ai pas Internet.
Mmh.
Mais mon fils, il a fait des recherches et on n'a pas trouvé. Et je connais une dame qui m'a dit que j'allais le revoir.
Ah.
Elle me dit, tu le reverras, ce gars. Mais bon, moi, je vois que le temps passe et je vois rien venir.
Oui. Quand vous dites que vous rêvez de lui, c'est vraiment dans vos rêves la nuit ou c'est simplement dans vos pensées la journée qu'il est toujours présent?
Ah non, c'est dans mes rêves la nuit. La nuit.
Et dans vos rêves avec lui, vous avez quel âge?
Comment?
Dans vos rêves avec lui, vous avez quel âge? Est-ce que c'était l'âge de l'époque ou c'est aujourd'hui?
Ah non, l'âge de l'époque.
Mmh.
Ouais.
Vous arrivez à imaginer à quoi il ressemblerait aujourd'hui, ce monsieur?
Oui, tout à fait, oui.
Et en faisant des recherches dans le village où vous étiez, il n'y a pas moyen de retrouver sa trace?
Ah non. J'ai tout essayé, j'étais même écrit à la mairie et tout, et il n'y a eu rien à faire. Pas de trace. Parce que à un moment donné, on a fait un repas entre copains et copines de classe. Ils l'ont recherché, ils ne l'ont pas trouvé, et donc il n'est pas venu au repas.
Oui. Alors, sans donner son nom de famille, parce qu'on ne sait jamais, on peut lancer une bouteille à la mer ce soir, quel est son prénom?
Jean.
Jean. Donc, si jamais, j'imagine que si jamais Jean nous écoute, il reconnaîtra votre voix et votre histoire. Est-ce que vous pourriez donner quelques indices pour des gens qui pourraient le reconnaître?
Ah, pour des gens... Comment vous voulez dire? Des prénoms?
Je ne sais pas dans quelle ville il a grandi, peut-être que faisaient ses parents à l'époque, et comment ça...
Ah oui.
Je ne sais pas, quelques informations qui pourraient permettre à des gens qui nous écoutent de dire « mais c'est peut-être le Jean que je connais ».
Son papa, il était chef de gare, et il était au Solé, et après il a été déplacé dans l'Hérault à Pézenas.
D'accord, ça c'est un bon indice, effectivement.
Et ensuite, il avait un frère qui était plus âgé, il s'appelait Robert.
Oui, d'accord.
Et, ouais. Et c'est tout.
Et vous aujourd'hui, vous êtes dans quelle ville?
Moi, j'habite à Orly-sur-Tech.
D'accord.
Et oui, il avait une petite copine qui s'appelait Maryse. Et son papa était caviste, en face de la gare, où son père était chef de gare.
Mmh. Et alors aujourd'hui, imaginons, si vous le retrouviez, qu'est-ce que vous espérez?
Ah, ben je voudrais simplement savoir le parcours de sa vie et rentrer en amitié avec lui.
Mmh. Et lui dire que vous ne l'avez jamais oublié?
Voilà, oui, ça aussi, oui.
Mmh.
Oui, parce que le jour qu'il est parti de la gare, je suis allée pour lui dire au revoir. Et quand je suis arrivée à la gare, le train était parti. Alors ça a été ma grande déception.
Ah ben c'est ça, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas allée au bout de l'histoire à l'époque, c'est resté en suspens.
Voilà, oui.
Et c'est pour ça que dans votre cerveau, vous remettez l'histoire en boucle. Vous y retournez toutes les nuits, pratiquement.
Eh oui.
Sinon, ce que vous pouvez faire,
oui.
Monique, si vous n'avez pas de ces nouvelles, c'est peut-être, c'est peut-être symboliquement, dans votre cœur, lui dire au revoir. Peut-être pouvez-vous retourner dans une gare, voir un train qui part et vous dire, voilà, symboliquement, je te dis au revoir, Jean, parce que je n'ai pas pu le faire à l'époque. Merci pour ces jolis souvenirs.
Oui.
Mmh.
Et oui.
Ça vous aiderait peut-être à fermer le livre, à tourner la page?
Ben ouais. Je ne sais pas, hein, parce que quand je vais à mon village natal, que je passe au passage à niveau, ma première pensée, c'est pour lui.
Et oui, bien sûr. Et je vous dis, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé, effectivement, vous n'avez pas pu lui dire au revoir.
Oui.
Donc faites-le.
Alors j'imagine qu'il a deux enfants et qu'il est veuf. Mais je ne sais pas si c'est vrai, en fait.
Vous imaginez
c'est
ça?
C'est d'abord, pas à moi.
Oui, vous faites un scénario dans lequel vous retournez chaque nuit, en fait.
Voilà, oui. Oh non, pas tous les... Je rêve pas tous les soirs, quand même.
Mais souvent.
Non, mais souvent, oui.
Bon, Monique, on va en rester là, parce que la communication n'est pas très bonne. En tout cas, on lance une bouteille à la mer. Si oui. quelqu'un connaît un Jean qui ressemble à cette description, ou s'il se connaît, qui nous envoie, qui nous appelle.
D'accord.
Et on fera le lien avec vous, d'accord?
Oui, oui. Je vous remercie, Sabine, et votre émission est magnifique. Je l'écoute tous les soirs.
Merci beaucoup, Monique. Je vous embrasse très fort.
Moi aussi.
Au revoir.
Au revoir, Sabine.
Et on a plusieurs messages qui sont arrivés pour Monique. Il y a Marc notamment qui dit que vous pourriez, Monique, vous renseigner à la SNCF qui peut-être garde des archives. Et puis on a Laurence qui dit que vous pourriez vous renseigner dans la mairie qui peut-être aussi a gardé des archives et des traces de la famille de votre ami. En tout cas, on vous souhaite de tout cœur d'arriver à retrouver son chemin et de le croiser à nouveau, Monique. Et ben, on va terminer cette émission avec Françoise maintenant. Bonsoir, Françoise.
Bon, attendez, ça doit être moi alors.
Oui, c'est... Allô?
Bonsoir, Sabine.
Ah, ben voilà, ça y est, je vous entends mieux. Bonsoir, Françoise.
Oui, 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 bonsoir. Mais écoutez, je suis contente de vous avoir.
Et moi aussi, bienvenue.
Merci beaucoup. Donc, bon, c'est pas toujours évident de parler comme ça, là, hop, hop, hop.
Alors, qui êtes-vous, déjà? Racontez-moi un petit peu.
Oh, qui je suis? Oh, bon, pas mal de choses, puis pas grand-chose. Et là, en ce moment, bah, pas grand-chose parce que je souffre et que je ne supporte plus ça. Et que je sais, quelque part, tout au fond de moi, que ça peut aller mieux. Mm-hmm. Mais je ne peux pas toute seule.
Ça, c'est dit à la bonne nouvelle.
Ah, mais oui, mais tout au fond. Hein. Parce que je suis envahie par la douleur physique. Alors, j'ai donné un nom, là, mais enfin bon, on va dire fibromyalgie.
Oui, oui. Bon, on met un peu tout. C'est un sac dans lequel on met un peu tout, hein.
Oui, mais enfin, c'est tous les donc tous les muscles qui se contractent, ça fait très mal, hein.
Oui.
De la tête aux pieds, des pieds à la tête, sauf les doigts des mains.
Oui.
Et donc ça a un impact sur le psychisme, si vous préférez.
Ah bah oui, c'est épuisant d'avoir mal comme ça.
Bah ça, oui, mais c'est... j'angoisse, hein. Moi j'angoisse, je supporte plus, je peux pas marcher, je peux pas sortir de chez moi, mais ça devient fou. Non, mais je sais que. Ben, je sais que de toute façon, ce n'est pas irrémédiable. Donc, c'est des crises comme ça, mais là, j'ai atteint le summum, quoi. J'ai redoublé ça en portant des sacs, en montant les escaliers. C'est très intelligent.
Ça a démarré il y a combien de temps, ces douleurs?
Oh, moi, je crois que j'ai toujours été plus ou moins, on va dire contractée, mais enfin, oui, oui. Toujours un peu crispé.
Tendu.
Mais ça sent. Bon, moi, je crois que depuis que je suis petite. Hein, et ça augmente, hein, entre une légère contracture des muscles, bon, hein. Et avoir très, 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 très mal et que ça. Franchement, ça fait mal. Sinon, je vous. Voilà. Ça fait quelques années, là, où il y a des crises comme ça, des épisodes, je ne sais pas comment appeler ça, moi.
Qu'est-ce que vous prenez pour aller mieux?
Bon. Ah, c'est le truc. Vous savez, ça fait pas grand chose, hein. Des antalgiques et puis il y avait des mules relaxants. Moi, vous savez, d'abord ça n'existe plus. Alors on vous donne une espèce de médicament, soi-disant, qui décontracte un peu, mais qui me décontracte pas du tout. Mais c'est pas ça qui. Non, c'est pas ça du tout qui me convient. Enfin, ça ne fait pas grand-chose.
Est-ce,
hein,
que, vous
fait...
avez, est-ce que vous avez...
J'y crois pas.
Alors, il y a quelque chose qui m'intéresse. Là. Vous m'avez dit, au fond de moi, je sais que je peux aller mieux.
Oh, bah oui. Là, je peux aller mieux, mais voilà. Moi, mon médicament, vous savez ce que c'est la parole.
Alors, justement, mais... est-ce que vous avez une thérapeute avec qui parler?
J'ai une... Oui, une personne, oui, qui sort un peu de l'ordinaire aussi. Mais je suis pas uniquement centrée là-dessus. Là, en ce moment, un petit peu, mais bon. Et là, je peux pas sortir, hein. Je peux pas marcher, je peux pas... Pour le moment.
Pour le moment, mais oui, vous avez dit c'est par phase. Est-ce que vous avez pensé à l'hypnose thérapeutique?
J'aimerais bien.
Ben oui, parce que c'est typiquement dans des cas comme ça. Quand j'entends quelqu'un dire que le corps s'exprime, donc le corps ne ment jamais, il faut aller comprendre ce qu'il exprime, votre corps. Et puis, quand vous me dites, au fond de moi, je sais... Ben, l'hypnose est un bon moyen pour aller au fond de soi chercher la solution, justement.
Ah oui, je sais que ça vient de... Je le sais, mais c'est intellectuel, quoi, un petit peu. Ça vient d'une déconsidération dans mon enfance, quoi. Mm-hmm. J'ai pas été acceptée, ou alors je vais vous donner une parole de ma mère, ça va tout de suite vous faire comprendre. c'est une malade, c'est une malade ou c'est une folle. Vous voyez, j'ai un catalogue comme ça à vous offrir.
Oui, mais c'est ça.
Il faut lui dire qu'on l'aime ou j'ai droit à rien. Voilà, c'est ça. J'ai pas une mère. Et ça m'a crispé. Et il y a une hypothèse, mais c'est intellectuel, ça. Qu'est-ce que je vous dis? C'est pas que toute petite déjà, c'était une mère qui était malade. Donc c'est ça qui m'a crispé. On en est, j'en suis.
Alors c'est ce qu'on appelle la fidélité invisible, la fidélité inconsciente. C'est-à-dire que vous êtes aussi malade du coup. Comme si quelque part vous ne vous autorisiez pas à aller mieux que cette maman. Mais de manière inconsciente, hein, bien sûr.
Ah oui, non, mais je vais quand même un petit peu mieux quand même.
Oui, heureusement, oui. mais quand même vous êtes en souffrance. Oui.
Ah oui, quelquefois non, hein. J'ai une petite tendance, ben, qui, je le sens à peine.
Mais ce qui est intéressant, c'est que vous me dites, c'est intellectuel. En fait, moi, je traduis ça par c'est le côté, effectivement, conscient, qui analyse et qui se dit, oui, j'ai beaucoup souffert, j'ai pas eu de maman, j'ai sûrement des blessures. Et à vous entendre, vous avez une grosse blessure de rejet, déjà, probablement.
Ah oui, parce qu'elle était comme ça, bien projetée sur moi, tout ça. Oui, bien sûr. Oh là là, oui.
Mais puisque...
On ne peut même pas dire maman, enfin c'est... Moi je dirais...
Génitrice.
Oui, j'avais encore un autre mot plus. Oui, on va dire génitrice, oui. Non, c'était pas ni une femme ni une mère. C'était quelqu'un de très blessé. Et donc, blessante, voilà.
Ben voilà.
Oui, ça je m'en souviens. Donc, qu'est-ce que vous m'avez dit là, Sabine? Je m'en souviens plus.
Vous l'avez déjà compris intellectuellement. Mais, oui, mais ça ne vous suffit pas à aller mieux. Votre corps est encore en souffrance. Donc, il va être intéressant d'aller le comprendre. Vous l'avez compris intellectuellement avec le conscient. Il serait intéressant d'aller avec l'hypnose travailler ça sur l'inconscient. Toutes les émotions qui sont restées coincées à l'intérieur et qui probablement font des nœuds. C'est ça qui vous fait mal.
Oui, des tensions, des nœuds. Oui, c'est ça, oui.
Et oui.
Et là, en plus, moi, je suis quelqu'un d'assez vivant. Vous savez, quand j'ai pas mal comme ça, bah, allez hop, je fonce. Bon, ben voilà, c'est pas mon style de rester allongé sur un lit à... Vous voyez ce que je veux dire? Même pas sortir, oh là là. Mmh. Alors, là aussi, vous sortez pas, par exemple. J'ai compris ce que vous me disiez. Juste un petit... Peut-être, si je parle trop, vous me le dites. Ne pas sortir, ne pas faire une petite course, ne pas aller faire même 300, 400 mètres, entendre les oiseaux dire bonjour à quelqu'un. Alors, attendez, ça va, ça suffit. Vous voyez?
Oui, mais votre corps est en train de taper à la porte et de vous dire « il y a un problème ».
Fais
quelque chose, ne me laisse pas comme ça. Et pour aller défaire les nœuds, je pense vraiment que là, pour le coup, l'hypnose thérapeutique, pour vous, est un très bon chemin. Pour aller défaire ces nœuds-là, qui sont des nœuds intellectuels, moraux, mais qui jouent sur le corps. C'est ça que votre corps est en train de vous dire. Quand on a des nœuds, c'est qu'il faut, trouver les tirer sur les bonnes ficelles pour défaire ces nœuds-là.
Oui, j'ai bien entendu. Mais alors, dites-moi pour l'hypnose, moi, ça y est, il y en a un petit peu partout, hein.
Bien sûr.
Alors, j'ai pas envie d'aller voir quelqu'un qui se dit hypnothérapeute et puis qui saura pas m'aider, quoi, qui est pas.
Bah, c'est comme tout, vous savez, c'est ce que j'explique tous les soirs aux gens, quel que soit le thérapeute, que ce soit des psychiatres, des psychologues ou n'importe quel autre thérapeute, il y a des bons, il y a des mauvais partout. Donc, le meilleur moyen, c'est de le bouche à oreille, de demander à des pharmaciens, des médecins dans votre coin qui connaissent. Les médecins, il y a beaucoup de médecins qui travaillent main dans la main avec des hypnothérapeutes et qui leur envoient régulièrement des patients. Et puis ensuite, quand vous rencontrez quelqu'un, eh bien vous essayez simplement, vous faites une première séance.
Ça, je saurais le faire. Ça, je connais déjà avec les psy tout court. Hein.
Et vous savez très bien, au bout d'une séance, vous saurez déjà si le contact passe, si ça vous fait bien.
Mais il n'y a pas une fédération, on pourrait justement déjà... Non, il n'y a pas une fédération...
Il n'y a pas de fédération, il y a des écoles reconnues, il y a plusieurs écoles reconnues.
Voilà, des écoles, là. Où trouver le...
Qui ont des annuaires de thérapeutes diplômés dans leur école, par exemple.
Voilà.
Je vais vous en donner quatre, d'ailleurs.
Et comment vous allez faire? Vous ne pouvez pas, là, par téléphone.
Ben si, pourquoi? Je peux vous donner les noms, pas tous les coordonnées, vous les trouvez toutes seules après, mais les noms, je peux vous les donner.
Ah ben d'accord.
Vous écouterez le replay si vous n'avez pas le temps de noter. Il y a quatre écoles vraiment, vraiment sérieuses en France.
Voilà, oui.
Il y a l'Arche.
Oui.
Il y a l'ECH, École Centrale d'Hypnose.
L'Arche. De toute façon, je pourrais demander peut-être tout à l'heure si je n'ai pas tout.
Vous retrouverez ça. Il y a l'IFHE.
Ouh là là là.
Institut français d'hypnose ericksonienne. IFHE. Et il y a l'AFNH, Association française.
Je ne pourrais pas l'écrire tout ça. parce que j'ai mal à ma main. Donc,
vous
c'est juste la droite.
Vous écouterez le replay. Simplement, l'Arche, le CH, l'IFHE et l'AFNH, vous trouverez leurs coordonnées sur Internet ou par téléphone.
J'ai pas Internet.
Eh bien, vous demandez à quelqu'un de vous aider.
Et je m'en fiche.
Eh bien, vous demandez à quelqu'un de vous les trouver, les coordonnées. Et ces écoles-là, en tout cas, ont des annuaires avec, dans toutes les villes de France, des thérapeutes qui sont diplômés de chez eux. Et donc, c'est validé. Ce sont des gens sérieux.
Voilà,
et
c'est ça.
Et ce conseil, je donne à tous ceux qui nous écoutent, parce qu'on me dit souvent comment trouver un bon hypnothérapeute. Passez par ces quatre écoles-là. Ils vous enverront vers des gens sérieux.
D'accord. Et je ne pourrais pas redemander tout à l'heure si je n'ai pas bien écrit.
Bah, tout à l'heure,
ou
je
demain.
Il va être 1h du matin, je vais aller dormir tout à l'heure.
Ah non, pas tout de suite, justement. Je ne peux pas demander à Amandine ou à Fan demain.
Eh ben, demain, ils ne seront pas là, c'est la semaine. Mais vous leur voulez, ben, qu'est-ce que vous voulez leur demander de plus que ça?
Bah, les numéros que je n'ai pas bien notés.
Mais ce sont des noms que je vous ai donnés. Alors, vous écouterez le replay de l'émission. Ah ben non, vous ne pouvez pas écouter le replay, vous n'avez pas Internet.
Ben non.
Vous avez noté les quatre noms?
Non. Justement, je ne veux pas vous déranger avec ça. Bon, bah, je peux attendre une semaine, hein, je ne vais pas pleurer non plus.
Alors, non, ce qu'on va faire, parce que là, il va falloir que je termine. Ne quittez pas, Amandine va vous récupérer et je vais venir vous donner les coordonnées de ces écoles-là.
Hein. D'accord, bah, c'est très gentil à vous.
Et pour tous les auditeurs, je le redis une dernière fois, l'Arche, le CH...
Le CH, j'ai noté ça, mais bon...
L'IFHE et l'AFNH.
Et tout ça, c'est sur Paris.
Oui. Mais ils ont des coordonnées de thérapeutes dans toute la France. Ne quittez
pas,
voilà. Je vous laisse, il faut que je termine l'émission.
Merci.
Je vous récupère dans un instant pour vous donner ces coordonnées.
Merci de m'avoir bien... J'ai bien entendu.
L'émission se termine, je vous prends en antenne. Merci à tous ceux qui ont participé ce soir. Demain soir à 22h30, vous retrouverez avec grand plaisir, je le sais, Sophie Peters à ce micro. Moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à partir de 22h30. Et je vous quitte avec cette petite citation en forme de mantra. Faites ton mieux et n'oublie pas d'être heureux. Fais de ton mieux et n'oublie pas d'être heureux. Passez une bonne nuit, je vous laisse en compagnie des dossiers extraordinaires de Pierre Bellemare.